Vous écoutez On lit pour vous.
Un milieu de vie pour adultes autistes créé sur mesure pour leur fils. Un texte de Marie-Christine Gaudreau, paru le 2 avril 2025 dans Hebdo Rive-Nord. Hugo Labrecque et Marie-Claude Rodrigue ont un fils vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, TSA. Alors que celui-ci approchait l'âge adulte, le couple repentinois s'est inquiété pour son avenir. Que ferait-il après ses 18 ans, alors que les services se volatiliseraient un à un? Que ferait-il une fois qu'eux ne seraient plus là pour l'accompagner? Entrepreneurs aguerris, ils ont choisi de se mobiliser pour concevoir eux-mêmes le milieu de vie idéal pour Julien Pierre. 7 ans plus tard, les habitations Indigo prennent forme et doivent accueillir leur premier résident dès l'été 2025. Comme parents, on avait une inquiétude. Ils n'étaient pas prêts à aller en appartement tout seul, sans supervision, et on ne voulait pas l'envoyer dans une résidence de personnes âgées ou une ressource intermédiaire, confie Hugo Labrecque, membre fondateur des Habitations Indigo et père de Julien Pierre, rencontré sur le chantier à l'Assomption. De l'autre côté, les parents souhaitaient plus pour leur fils qu'une vie à la maison avec eux, à regarder le temps filer. De là a germé l'idée de créer un espace sécuritaire et épanouissant où les adultes vivant avec le même genre de défis que Julien Pierre pourraient développer leur plein potentiel. Combler le vide de service. En fait, le concept Indigo vise une clientèle aux besoins légers, les grands oubliés du système de santé et de services sociaux, selon les fondateurs des Habitations Indigo. Outre les personnes vivant avec un TSA, la maison qui a pignon sur rue, à proximité du parc écologique, sur le boulevard de l'Ange Gardien, accueillera aussi des adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère ou un trouble développemental du langage. Cette clientèle-là tombe entre deux chaises, estime Hugo Labrecque. Ils ont des besoins, mais ce ne sont souvent pas des besoins aussi urgents selon les critères du CI3S. Tout comme Julien Pierre, plusieurs de ses camarades de classe se retrouvaient devant le vide une fois leur scolarisation terminée. Pourtant, avec un peu d'aide, ce sont tous des adultes qui ont le potentiel de développer leur autonomie et de contribuer à la société. C'est dans cet objectif que les Habitations Indigo ont été fondées. Ce modèle d'habitation unique proposera des logements supervisés à prix modique à cette clientèle, mais aussi des plateaux de travail qui serviront de tremplin vers le marché de l'emploi. Il y a un besoin de main-d'œuvre et cette clientèle-là est capable d'aller en entreprise et de donner un coup de main, remarque M. Labrecque. Ainsi, les résidents auront accès à même leur milieu de vie, à des plateaux de travail en cuisine, en agriculture et en réparation de vélos. Une cuisine commerciale et un café-bistrot aménagés sur place leur permettront, entre autres, de développer leurs habiletés en préparation de repas, mais également pour le service. Une salle de réception pourra accueillir ponctuellement des événements privés ou de levée de fonds, où les résidents seront appelés à assurer le service. Le toit de l'immeuble accueillera, quant à lui, un grand jardin où les résidents s'initieront à la culture maraîchère. Fait non négligeable, les plateaux de travail et les ateliers qui seront proposés aux habitations Indigo pourront également être ouverts à la clientèle TSA et DI non résidente. Contrainte budgétaire. Dans le cadre de leur démarche, Hugo Labrecque et Marie-Claude Rodrigue ont pour l'heure réussi à obtenir du financement en service de la part du CI3S de Lanaudière pour 16 des 26 unités de la maison. S'ils espèrent qu'un budget supplémentaire puisse rapidement être débloqué, les fondateurs assurent que les 10 places restantes seront néanmoins ouvertes dès l'inauguration de la maison. Elles seront toutefois réservées à une clientèle nécessitant très peu de soutien. Ce pourrait être des personnes avec un déficit de l'attention ou un trouble d'apprentissage dont le profil se marierait bien avec notre clientèle, évoque Hugo Labrecque. Préconiser l'entraide. En cohérence avec la mission, les habitations Indigo sont bien plus qu'un immeuble à logement abordable. Il s'agit d'un milieu de vie où chacun est appelé à contribuer aux tâches quotidiennes dans les nombreuses aires communes et où l'entraide et la camaraderie sont préconisées, et ce, toujours dans l'objectif de développer les aptitudes et habiletés sociales de chacun. Il n'y a pas un résident à l'heure actuelle qui a le même niveau d'autonomie ou le même niveau de progression. Mais certains, par exemple, sont déjà habitués de prendre le transport en commun. Ils vont peut-être aider les autres résidents à se familiariser. D'autres vont dire « Moi, je suis capable de faire les repas. Viens, je vais te montrer comment il marche ton four », suggère le fondateur. À travers tout cela, les intervenants, qui seront toujours présents, accompagneront les résidents vers la vie autonome, par exemple en les guidant dans l'accomplissement de leurs tâches ménagères, dans l'élaboration de leur liste d'épicerie, dans la gestion des dates de péremption, dans leur démarche pour l'obtention d'un emploi rémunéré ou encore de leur permis de conduire. L'objectif, c'est de leur faire apprendre, de leur faire développer l'autonomie au maximum. À quelques mois du grand déménagement, Julien Pierre est impatient d'intégrer son nouveau milieu de vie. « Ça va faire du bien. Je vais être enfin autonome. Je vais pouvoir être un membre de la société », déclare-t-il. Depuis le tout début du projet, Julien-Pierre Labrecque est pleinement impliqué dans son élaboration. Ayant représenté la communauté autiste durant son passage à l'école Jean-Baptiste Meilleur, celui-ci s'en est fait le porte-voix afin que l'environnement corresponde à leurs besoins. Lumières ajustables, insonorisation optimisée, température ambiante constante. Un grand nombre d'éléments ont été pris en compte pour assurer le confort des résidents susceptibles de vivre avec une hypersensibilité. Enfin, d'ici à ce que les travaux de construction soient terminés et que les premiers résidents emménagent, Hugo, Marie-Claude et Julien-Pierre s'affaireront à tisser des liens avec de potentiels partenaires de la communauté qui contribueront au succès et au rayonnement des habitations Indigo. C'était un milieu de vie pour adultes autistes créé sur mesure pour leur fils. Un texte de Marie-Christine Gaudreau paru le 2 avril 2025 dans Hebdo Rive-Nord.
Alzheimer. Un traitement expérimental pourrait retarder l'apparition des symptômes. Un texte de Fleur Brosseau, paru le 28 mars 2025 dans Science et Vie. la maladie d'Alzheimer demeure à ce jour incurable. Cependant, les efforts de recherche ont abouti à des traitements médicamenteux permettant de ralentir sa progression et de diminuer les symptômes. Les plus récents ciblent directement l'une des causes de la maladie, les plaques amyloïdes. Le gantenérumab est l'un d'entre eux. Malgré des résultats préliminaires mitigés, il a fait l'objet d'une étude d'extension ouverte visant à évaluer sa tolérance et son efficacité à long terme. Il pourrait finalement retarder l'apparition de la maladie de plusieurs années. Les premiers traitements proposés aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer visaient essentiellement à traiter les symptômes. Ces médicaments, galantamine, donépezil, rivastigmine, etc., empêchent la dégradation de l'acétylcholine, un neurotransmetteur impliqué dans la mémoire et l'apprentissage. Ils permettent ainsi de ralentir le déclin cognitif et de réduire les troubles du comportement. Malgré des résultats significatifs, ces médicaments présentent de sérieux effets secondaires. L'immunothérapie est aujourd'hui l'une des pistes les plus prometteuses pour développer de nouveaux traitements. L'élimination des plaques amyloïdes par les thérapies à base d'anticorps monoclonaux, tels que le lecanemab commercialisé en Europe depuis novembre 2024, ralentit la progression clinique de la maladie d'Alzheimer symptomatique. Cependant, on ne sait pas s'il est possible de retarder l'apparition des symptômes cliniques chez les personnes prédisposées qui ne présentent pas encore de signes de la maladie. Une étude sur les formes héréditaires de la maladie. La maladie d'Alzheimer est le plus souvent sporadique. Autrement dit, elle survient de façon aléatoire, résultant d'un ensemble de facteurs génétiques et socio-environnementaux. Contrairement aux idées reçues, la forme héréditaire de la maladie est beaucoup plus rare, moins de 1 % des cas. Elle survient beaucoup plus tôt, avant 65 ans, voire avant 50 ans. Cette forme familiale autosomale dominante résulte d'une mutation sur l'un des gènes que l'on sait associés à la maladie, APP, PSEN1, PSEN2. Un test génétique permet de déterminer si le gène muté a été transmis. La Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit, DIANTU, est une unité lancée en 2012 chargée d'évaluer la sécurité et l'efficacité de plusieurs traitements expérimentaux chez des participants porteurs de l'une des mutations génétiques évoquées ci-dessus. Ces patients étaient nécessairement asymptomatiques ou atteints d'une déficience cognitive légère. Parmi les traitements testés, le gantenérumab développé par le groupe Roche. Comme le lecanemab, il cible le peptide bêta-amyloïde qui l'élimine par phagocytose. La toute première étude DIANTU, menée de 2012 à 2019, puis des essais de phase 3, contrôlés par placebo, ont montré que le gantenérumab réduisait les plaques amyloïdes chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. L'effet observé était dépendant de la dose. En revanche, le médicament ne ralentissait pas de manière significative le déclin cognitif par rapport au placebo. Ces résultats ont conduit à une étude d'extension ouverte d'une durée de 3 ans. Elle visait à évaluer la sécurité et l'efficacité du traitement à long terme. Il s'agissait notamment de déterminer si des doses plus élevées de gantenérumab pouvaient éliminer complètement les plaques amyloïdes et ainsi retarder la progression clinique de la maladie. Un risque de symptômes réduit de moitié. L'étude a été menée dans 18 sites en Australie, au Canada, en France, en Irlande, à Porto Rico, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'ensemble des participants était issu de l'essai clinique précédent. Ils avaient donc déjà reçu du gantenérumab ou un placebo et connaissaient leur statut de mutation génétique. Les chercheurs ont examiné les effets de doses croissantes de gantenérumab jusqu'à 1500 mg toutes les 2 semaines. Cette fois-ci, il n'y avait pas de groupe de contrôle sous placebo. Les résultats viennent de paraître dans The Lancet Neurology. Au total, 73 personnes ont reçu du gantenerumab dans le cadre de cette étude d'extension. Seules 13 d'entre elles ont terminé les 3 années de traitement. 13 autres ont quitté l'étude prématurément en raison d'effets indésirables ou d'une progression de leur maladie. Enfin, 47 participants se sont finalement retirés en raison de l'arrêt prématuré de l'étude par le promoteur. En effet, en 2023, Roche a interrompu le développement de son produit après des résultats décevants. Le taux d'élimination de la bêta-amyloïde était inférieur aux attentes. L'analyse primaire, qui devait se concentrer sur l'élimination des plaques amyloïdes, comprenait 55 participants, dont certains avaient arrêté le traitement prématurément. Parmi eux, 22 personnes ont reçu du gantenerumab à la fois pendant le premier essai clinique et pendant l'extension de l'étude, soit pendant 8 ans en moyenne. Pour ces patients, le risque de développer des symptômes a été divisé par 2. Il n'y a pas eu d'hémorragie grave ni de décès associé au traitement. En revanche, des ARIA, Amyloid Related Imaging Abnormalities, des anomalies visibles à l'IRM qui résultent de l'activité du produit, et des micro-hémorragies ont été observées chez près de la moitié des 73 participants. Plusieurs billets, mais des résultats prometteurs. L'élimination partielle ou à court terme de l'amyloïde n'a pas eu d'effet clinique significatif. Cependant, l'élimination complète de l'amyloïde à long terme a potentiellement retardé l'apparition des symptômes et la progression de la démence, concluent les auteurs de l'étude. Ils estiment ainsi que si les patients commencent le traitement suffisamment tôt, pendant une période assez longue, ils pourraient être préservés de la maladie et ce, peut-être pendant des années. Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec prudence, du fait que cette étude n'est pas impliquée de groupe de contrôle. En outre, les personnes ayant abandonné l'étude de phase 3 n'étaient pas éligibles à l'extension de l'étude, ce qui signifie que les participants retenus devaient être en relativement bonne santé et se porter mieux dès le départ. Néanmoins, les résultats sont prometteurs. Il s'agit des premières données suggérant qu'il existe une possibilité de retard significatif dans l'apparition de la progression des symptômes, a déclaré à CNN le Dr. Eric McDade, professeur de neurologie à l'Université de Washington à Saint-Louis et co-auteur de l'étude. Une piste prometteuse menacée par un manque de financement. Sue, une participante à l'étude de 61 ans, fait partie du groupe gantenerumab de l'essai depuis 2012. Elle a rejoint l'étude peu de temps après avoir découvert qu'elle était porteuse d'une mutation génétique qui entraînerait une maladie d'Alzheimer précoce. 2 de ses frères, eux aussi porteurs du gène mutant, ont également participé à l'essai, mais ont entamé le traitement après avoir développé des symptômes vers 57 ans. Sue, elle, n'en présente pas pour le moment. Elle pense réellement que le traitement a retardé l'apparition de la maladie. Marty Reisvig, de Denver, fait lui aussi partie des participants. Il est porteur d'une mutation du gène PSEN2. Les membres de sa famille porteurs de cette mutation commencent à présenter des symptômes entre 47 et 50 ans. Son père en est décédé en 2019 à l'âge de 66 ans. Marty a 46 ans. Il a débuté dans le groupe solanezumab de l'étude, puis est passé au gantenerumab dans l'extension. Il n'a pour le moment constaté aucun symptôme. L'équipe de recherche s'inquiète à présent des suites de l'étude. Un possible refus de subvention de la part des National Institutes of Health pourrait mettre bientôt fin à son financement. Les patients sous gantenerumab depuis des années pourraient ne plus avoir accès à leurs médicaments. Ils devront alors se tourner vers les traitements actuellement approuvés. Ce revirement de situation constituerait une grande perte, tant pour les scientifiques que pour les patients. Continuer à les suivre sous traitement peut constituer le meilleur test possible de l'hypothèse amyloïde et fournir des preuves décisives pour ou contre cette hypothèse. La poursuite du financement de cette étude devrait être une priorité absolue, a déclaré le Dr Michael Gracius, professeur de neurologie et de sciences neurologiques à l'Université de Stanford, qui n'a pas participé à l'étude. Personnellement, cela me terrifie. On m'enlèvera un médicament qui me sauve la vie et on me laissera attendre les premiers symptômes pour commencer à ralentir la maladie avec Kisunla, note de la rédaction donanemab, ou Leqembi, note de la rédaction lecanemab, a déclaré Marty à CNN. C'était Alzheimer. Un traitement expérimental pourrait retarder l'apparition des symptômes. Un texte de Fleur Brosseau, paru le 28 mars 2025 dans Science et Vie.
La croisade culturelle de Trump se poursuit aux États-Unis. Un texte d'Élodie Soinard et Maggie Donaldson de l'Agence France-Presse, paru le 31 mars 2025 dans Le Devoir. La volonté sans précédent de Donald Trump de se mêler des contenus du plus grand ensemble de musées des États-Unis, le prestigieux Smithsonian de Washington, est un pas de plus dans sa croisade culturelle lancée depuis son retour à la Maison-Blanche. Un peu plus tôt, le président républicain avait déjà opéré une manœuvre inédite en s'emparant des commandes du Kennedy Center, institution culturelle de renom de la capitale américaine, avec la promesse que « ça ne sera pas woke ». Autour du Smithsonian, ses presque deux siècles d'histoire et ses 21 musées largement consacrés à l'histoire américaine et égrenés autour du Mall, l'immense esplanade verte cœur touristique de Washington, d'être dans son collimateur. Dans un décret intitulé « Restaurer la vérité et la raison dans l'histoire américaine », le milliardaire new-yorkais accuse l'ensemble muséal de faire partie d'un mouvement révisionniste et de mener un endoctrinement idéologique à base de récits déformés et qui divisent. Lui ambitionne d'en faire un symbole de la grandeur de l'Amérique. Déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre contre les historiens et les musées, tonne auprès de l'AFP David Blight, président de l'Organisation des historiens américains, OAH. C'est arrogant et affligeant de leur part de prétendre qu'ils ont le pouvoir et le droit de dire ce qu'est effectivement l'histoire et comment elle devrait être exposée, écrite et enseignée, s'étrangle ce professeur d'histoire américaine à Yale. Près des deux tiers du budget annuel avoisinant le milliard de dollars du Smithsonian proviennent de fonds fédéraux. Mais le gouvernement n'était pas impliqué sur ce qu'il était approprié ou non d'exposer jusque-là, souligne auprès de l'AFP Robert McCoy, qui enseigne l'histoire à l'Université de l'État de Washington, West. Jamais un président n'a tenté d'en prendre le contrôle, renchérit le premier. Dans son décret, Donald Trump donne par exemple pour directive d'interdire les dépenses pour des expositions qui dénigrent les valeurs américaines communes et divisent les Américains sur la base de la race. La présidente de l'ONG Southern Poverty Law Center, Margaret Wang, y voit la dernière tentative en date d'effacer notre histoire et de dissimuler racisme et suprématie blanche sous les traits du patriotisme. L'histoire afro-américaine fait partie de l'histoire américaine. L'histoire des femmes fait partie de l'histoire américaine. L'histoire de ce pays est horrible et belle à la fois, écrit-elle. Cet assaut de Donald Trump contre des mémoires plurielles s'inscrit dans la lignée de son offensive antidiversité initiée dès son retour au pouvoir jusque dans les sujets de recherche. Le Smithsonian, s'est transformée, tout comme notre société et notre culture, et est devenue beaucoup plus diversifiée. Les histoires qui y sont racontées sont plus complexes, diverses et inclusives, retrace Robert McCoy. Version étriquée. Inaugurée en 2016, le dernier-né des musées est dédié à l'histoire et à la culture afro-américaine. Un musée consacré aux femmes et un autre aux latinos sont en conception. L'enjeu, c'est de nous aider à approfondir ce que ça signifie qu'être américain, poursuit l'historien. Quand vous perdez ça, vous commencez à marginaliser de nombreux groupes. Ça veut dire que le peuple américain, et au-delà, le monde, ne verra exposé qu'une espèce d'histoire patriotique particulièrement étriquée. C'est de l'histoire biaisée, s'indigne David Blight. Dans le même décret, Donald Trump charge son gouvernement de déterminer si, depuis 2020, des monuments publics ou des statues ont été retirés ou modifiés pour entretenir une reconstruction erronée de l'histoire américaine, et le cas échéant, de les réinstaller. Certains, liés au passé esclavagiste du pays, avaient été enlevés de l'espace public dans le sillage des imposantes manifestations antiracistes déclenchées par la mort de l'Afro-Américain George Floyd sous le genou d'un policier blanc cette année-là. Pour Robert McCoy, l'ensemble de ces annonces de Donald Trump fait un certain écho aux travaux sur les ressorts des régimes autoritaires. Sur la manière dont ils s'enracinent, c'est un tout. Il ne s'agit pas seulement des institutions politiques et économiques, mais aussi de celles qui donnent aux gens un sentiment d'appartenance, résume-t-il. Contrôler le récit historique. C'est ce que l'URSS a fait pendant des décennies, s'exclame David Blight. Il publiait cette encyclopédie soviétique. Aux États-Unis, nous ne sommes pas censés avoir une histoire officielle. Nous en avons une approche ouverte, documentée, pour expliquer qui nous sommes, à nous-mêmes et au monde. Ce que les Trumpistes n'ont pas l'air de comprendre, estime-t-il, c'est que la plupart des gens sont parfaitement capables d'apprendre une histoire traversée par des conflits. C'était « La croisade culturelle de Trump se poursuit aux États-Unis », un texte d'Élodie Swanard et Maggie Donaldson de l'agence France Presse, paru le 31 mars 2025 dans Le Devoir.